Marc chapitre 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à la droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Amen. » Donc, ce qu'elles ont voulu faire, elles l'ont pas fait. Un petit peu avant, dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, au verset 3. Évangile de Marc, chapitre 14, verset 3e. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien, quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a, d'avance, embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi, à mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Amen. » Donc nous avons quatre femmes, dont une a pu faire ce qu'elle voulait, et trois n'ont pas pu faire ce qu'elles avaient prévu. Cette pensée s'est imposée à mon esprit pour cette pensée ce matin. Donc, je le répète, c'est une assemblée générale. C'est important, l'assemblée générale. Ça devrait permettre à chacun de dire, tiens, tous ensemble, on contribue à un projet, il y a un prévisionnel qui va être présenté, il faut le faire. Ça permet d'orienter ce qui doit être fait. Par exemple, les stagiaires, ce matin, vous voyez, on a sollicité une fois encore un des stagiaires pour prêcher à la Velanée, parce qu'il n'y a personne. On demande à droite, à gauche, régulièrement tous les dimanches. Donc, c'est très, très bien de former des pasteurs. Par exemple, je pense ce matin à Nathanaël qui est à Rodez, qui fait un très, très bon travail. C'est le résultat de ce que vous avez fait, parce qu'on a pu former un pasteur. Nous avons ensemble financé, je m'y suis attaqué à sa formation, et voilà, et je reçois régulièrement des mails de Rodez où les gens sont contents et heureux de ceux qui ont un pasteur qui fait du bon travail. C'est ça l'assemblée générale. Pour moi, c'est ça. Ce n'est pas de l'argent, c'est que nous allons comprendre au travers de cette prédication que l'argent, c'est quelque chose de très sérieux en fin de compte. On n'ose pas en parler pour ci, pour ça, parce que dans la culture française, c'est un peu tabou. Mais dans le royaume de Dieu, ça ne devrait pas l'être. Il y a des projets. Je permets de présenter certaines choses parce que je ne sais pas si je resterai jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Parce que je vous le dis, voilà, je suis un peu fatigué. J'ai fait une bêtise, c'est que voilà, j'ai repris à temps plein. Voilà, en vérité, voilà. Alors que le docteur m'a demandé de prendre à mi-temps. Voilà, ça, c'est pas intelligent, mais vous le saviez. Donc je sais que je suis fatigué particulièrement aujourd'hui, ça ne se voit peut-être pas, mais je vous assure que je suis fatigué. Mais ce n'est pas grave, je ne veux pas que vous me plaigniez, je veux que vous écoutiez bien ce que je vais vous dire. Un jour nous allons rendre compte, chacun, c'est écrit plusieurs fois dans la Bible, ce que c'est écrit, vous l'avez lu, il nous faut tous rendre compte devant le tribunal de Christ, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Dans l'Apocalypse, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc on pourrait prendre tous les textes qui nous rappellent que bon, la collectivité c'est une chose qui doit être prise au sérieux. Et un des problèmes de l'Église, il faut en parler de temps en temps, s'il y a des bénédictions, il y a un problème. Le problème que je rencontre souvent, c'est que comme on est nombreux, certains disent « Ah ben moi si je ne le fais pas, c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre ». Je peux vous dire que c'est un vrai problème. Dans l'Église, il y a de grandes bénédictions. Mais il y a un grand problème. Ça, c'est un grand problème. Oh, certains chrétiens disent, ah ben moi, c'est pas grave. Hier encore, quelqu'un me le disait. Mais moi, si je ne le fais pas, c'est pas grave. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. C'est une très, très mauvaise chose. Quand on passera devant Dieu, je pense que ça risque de causer problème à ceux qui ont pensé ainsi. Je pense que ce moment où nous passerons devant Dieu, nous avons tous envie que ça se passe bien. Oui ou non? Vous avez envie que ça se passe bien? J'espère, oui. Alors, si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres nous suivent. Vous êtes d'accord? C'est écrit. Bon. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est inutile. Donc, on peut sur ce terrain énormément orienté, justement utiliser l'Assemblée Générale pour forcer la dose et dire, voyez, on a intérêt à faire des œuvres. Bon, mais moi je voudrais ce matin parler différemment. C'est vrai que nos œuvres nous suivent. C'est vrai que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et que si vous ne faites rien pour Dieu, sérieusement, vous êtes vraiment en danger. Je ne sais pas comment il me faudra vous le dire, comment l'Esprit de Dieu devra vous parler, comment Dieu voudra vous éprouver, mais une chose est sûre, si vous ne faites pas quelque chose dans le royaume de Dieu, vous êtes en danger. C'est clair, c'est vraiment, vraiment grave. Mais ce n'est pourtant pas les œuvres qui nous sauvent. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est une question que chacun devons nous poser. Qu'est-ce que je dois faire dans l'Église? Qu'est-ce que, même si, par exemple, je vois Michael qui est là, Michael Bach, je veux dire, voilà, il est peut-être pianiste, il joue très bien du piano, c'est sa place. Mais est-ce que Dieu peut vouloir autre chose pour lui? Ou est-ce qu'il doit se dire, voilà, j'ai 30 ans, jusqu'à 90 ans, je serai pianiste? Ou est-ce que Dieu peut vouloir autre chose pour lui? Mais bien sûr, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas moi de dire, Michael, tu fais ci, fais ça. On est dans une église, on est dans un royaume, on n'est pas dans une dictature. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte comment ils freinent l'œuvre de Dieu. C'est quelque chose à cause de leur paresse. Je regardais hier dans le dictionnaire, parce que vous savez, il y a des mots, on croit qu'on les connaît, le paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire, paresseux? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition du mot paresseux? Mais lent à se décider. Vous voyez? Lent à se décider. Il y a des gens, il y a des chrétiens, vous les voyez, et c'est vrai, il y en a ici. C'est pas un procès, mais c'est quand même grave. Il y a des chrétiens, vous dites, alors qu'est-ce que... Ah, il faut que je serve le Seigneur. Vous voulez 10 ans après, alors, ah, il faut que je serve le Seigneur. C'est grave. Je vous assure que moi, ça me fait pas rire. Mais c'est la vérité. Et quand je dis 10 ans, c'est vrai. Donc, cette histoire que nous venons de lire est une histoire extraordinaire. Jésus a voulu que cette histoire soit toujours accompagnée de l'Évangile. Vous avez vu, partout dans le monde entier, cette histoire sera racontée, ou l'Évangile sera prêché. C'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus a absolument voulu que cette histoire soit accompagnée de l'Évangile. C'était une famille, Marthe, Marie, Lazare, c'était une famille qui était très 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 proche de Jésus. Ce n'était pas forcément une famille très très riche, quoique je pense qu'ils avaient des moyens, mais le fait qu'on voit Marthe servir quelques jours avant lors du souper, ça prouve qu'ils n'avaient pas des serviteurs pour faire le service. Vous voyez, c'est pas... Vous comprenez, je veux dire, c'était donc pas une famille très 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 aisée, puisqu'ils n'avaient pas de serviteurs. Donc, c'était une famille modeste, mais en même temps, c'était une famille économe, puisqu'on voit Marie qui avait su économiser ce fameux nectar de grand prix qui représentait une année de salaire. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est énorme. Cette jeune fille qui avait quand même fait énormément de travail, à l'époque il n'y avait pas le CAC 40, les bourses et tout ce que vous voulez, les gens économisaient souvent sous forme de parfum. Et elle va faire quelque chose donc qui accompagne l'Évangile, c'est qu'elle va briser ce vase et le répandre vraiment sur le Seigneur Jésus-Christ. Alors on connaît la suite, on connaît la fin, on connaît ce que Jésus en pense, mais vous avez vu le comportement de Judas, enfin on n'a pas vu le comportement de Judas, mais quand vous lisez les autres Évangiles, vous voyez la réaction de Judas et vous voyez la réaction des disciples. Et c'est important, pourquoi Judas a réagi d'une certaine façon, pourquoi les disciples ont réagi d'une autre façon. En tous les cas, quand Judas intervient, c'est du gaspillage. C'est complètement ridicule d'avoir gaspillé ce parfum. On aurait pu l'utiliser autrement. Qu'est-ce que le gaspillage? Qu'est-ce que le gaspillage? Est-ce que vous aimeriez que vous apprendre dans le cadre d'une assemblée générale que l'Église gaspille l'argent de l'Église? L'Église gaspille l'argent de l'assemblée. Est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez? Mais non, bon, je peux vous dire qu'à ce niveau-là, franchement, on s'y applique. Vous savez, on a eu un contrôle de l'URSSAF. Bon, il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé. Mais normalement, vous voyez, par exemple, sur un, je vous le dis parce que je ne sais pas si je vais rester, sur un ticket de restaurant, sur un ticket de restaurant, on nous a dit, voilà, c'est pas ça, il faudrait mettre le nom des pasteurs quand vous allez au restaurant, quand on va à une pastorale, demain il y a une pastorale au minime, quand on va, on paye le repas, vous voyez, il y a Monsieur Olé, il y a Jérémy, il y a sa femme qui vient, les frères, il y a, comment il s'appelle, il y a Michael, hein, il n'y a même pas sa femme, c'est bien alors, c'est bien. Non, je plaisante. Et voilà, mais on va au Buffalo Grill, donc ça coûte 10 euros, on prend le petit menu Buffalo, là, vous savez, le petit menu 10 euros. Alors il a bien vu, ça fait 60 euros pour 5 pasteurs. 5 repas. Il me dit, vous êtes combien, vous, monsieur Gaud, dans votre famille? 5. Ah, mais voyez, on peut penser que c'est vous qui vous êtes payé le resto. C'est ce qu'il m'a dit, tu te rappelles, David? Donc, il faut mettre normalement derrière la facture, il faut mettre, mais quand on voit les repas que vous prenez, 10 euros, on voit très bien que vous êtes de bonne foi. Parce qu'il expliquait qu'il y a des associations où il y a des repas gastronomiques. C'est 300 euros les deux repas. Il me dit, là, on voit que vous êtes soucieux. Je vous dis ça pour vous montrer qu'on a quand même le souci de ne pas gaspiller dans l'Assemblée. On pourrait prendre des menus plus importants. Je ne pense pas que vous diriez quelque chose parce qu'on prend des menus à 20 euros, 25 euros. Mais c'est un état d'esprit. Bon, c'est un état d'esprit. Mais le gaspillage, qu'est-ce que c'est? Le gaspillage, c'est qu'on dépense plus que ce qui est nécessaire. Si ce livre vaut 4 euros ou 5 euros et que je le paye 40 euros, j'ai gaspillé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du gaspillage. Je dépense de plus que ce qu'il faut. Donc, Jésus a voulu que cette histoire accompagne l'Évangile pour que nous comprenions vraiment qu'est-ce que c'est que se donner. Qu'est-ce que c'est que se donner? Parce que donner, c'est une chose. Moi, on m'a dit, je vais la donner ce matin. Voilà. Mais donner la dîme, c'est une chose. Faire une assemblée générale, c'est une chose. Mais se donner. Et là, je vous interpelle, mes frères et sœurs, parce que c'est mon devoir de pasteur. Vous allez me dire, moi, je donne. Mais c'est bien, et il faut. Nous ne pourrions pas faire ce que nous envisageons de faire si nous ne donnons pas. Mais la question que le Seigneur Jésus veut que nous posions là-dedans, c'est comment je me donne? Pas ce que je donne, comment je me donne? Vous avez vu Judas, lui il représente le monde, si vous voulez. Judas représente le monde, tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est du gaspillage. Voilà. Ce que je fais pour Dieu, ça ne sert à rien, on l'entend des fois, oui, donner pour Dieu. Il y a des gens qui ont l'esprit de Judas, il ne faut pas rêver. Hein. Oui, vous comprenez, moi je vais donner ça pour Dieu, mais c'est... Voilà, bon, ça vous donne une idée de l'état d'esprit dans lequel peuvent se trouver certains chrétiens. Moi, donner ma dîme, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est du gaspillage. Voilà, bon, c'est même pas la peine de commenter. C'est même pas la peine de commenter. Bon, le comportement de Judas, on pourrait en faire tout un sermon, je n'ai pas le temps. Le comportement des disciples, à nous, ça nous interpelle parce que nous sommes chrétiens. Les disciples ont eux aussi dit, à quoi bon cette perte? On pourrait vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Tiens, s'occuper des pauvres, c'est bien. Alors quelqu'un va peut-être penser que je me fais le contrepoids de ce qui se passe à Rome en ce moment. Je ne suis pas du tout mon état d'esprit. Mais j'aimerais vous dire que cette histoire, elle nous enseigne que ce n'est pas d'abord les pauvres qui doivent nous préoccuper. Alors quelqu'un ne va pas être d'accord, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Mais laissez-moi vous dire que c'est vrai. Nous ne devons pas faire une fixation sur un projet. Est-ce que vous comprenez? C'est important ça. Parce qu'il y a des chrétiens, moi j'ai discuté dernièrement avec une femme qui me disait, voilà, j'ai voulu être religieuse, j'ai voulu être pauvre, j'ai voulu me faire pauvre, parce que pour moi c'était la volonté de Dieu. Je lui dis, mais c'est pas la volonté de Dieu que de vouloir être pauvre. Est-ce que Dieu a dit, soyez pauvre, vous voyez comment les gens fonctionnent? Ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent un truc. Et nous ne sommes pas faits pour des trucs et des formules. Notre cœur, il est fait pour la communion avec Dieu. Il n'est pas fait pour des formules. Et les gens veulent des trucs et les gens veulent des formules. Mais Judas, c'est quelque chose, ça vaut la peine de réfléchir à Judas. Pour que nous-mêmes, on soit sérieux par rapport à notre façon de donner. Mais ça vaut quand même la peine, surtout d'étudier le comportement des disciples, qui eux, ont quand même considéré l'acte de Marie comme du gaspillage. Oui ou non? C'était du gaspillage. Judas, lui, de l'eau de Cologne, je pense que même ça aurait été de la dépense. Je réfléchissais hier, même de l'eau, ça aurait été de la dépense. Vous savez, quand on fait quelque chose pour Jésus, c'est jamais du gaspillage. On a entendu des fois, oh, ce gars, il est rentré dans le ministère, mais quel gâchis! Il aurait pu être ingénieur, il pourrait être un homme d'affaires, quel gâchis! Moi, je crois que ces gens-là, ils n'ont pas bien compris. Parce que je crois pas qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que de se donner pour le Seigneur Jésus, quelle que soit notre place dans l'Église. Quand on commence à parler ainsi, on a même entendu des pasteurs parler comme ça, « Oh, j'aurais pu être ingénieur, j'ai tout abandonné pour le Seigneur. » Je veux dire, ils n'auraient jamais dû dire un truc pareil, c'est ridicule, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas de plus grande bénédiction que de servir le Seigneur. Et voyez, quand on commence à parler comme ça, on est dans ce mauvais état d'esprit que Jésus a dénoncé. Donc, pour le monde, tout ce qu'on fait pour Jésus, c'est du gaspillage. Mais pour certains chrétiens, il y a quand même cette pensée qui revient. Est-ce que c'est du gaspillage d'avoir dépensé 5 000 euros? Oui, parce que c'est à peu près ce que ça a coûté. La formation de Nathanaël, on ne s'en rend pas compte, 30 000 euros par an, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est du gaspillage?
Non.
Non, mais c'est de l'argent, vous êtes d'accord avec moi. 3 ans, même un pasteur payait un petit peu plus que le SMIC, hein, avec les charges et tout, c'est un truc de fou. 5 000 euros pour former un pasteur. Non, mais c'est un débat. On peut avoir un débat, faire un débat. Dans un conseil, est-ce que c'est du gaspillage? Est-ce que des âmes sauvées à Rodez, est-ce que ça vaut la peine s'ils sauvent 20, 30, 100 âmes? Est-ce qu'une âme est plus importante que 5 000 euros? Combien vaut une âme? Ça, c'est une question. Vous savez que à quoi ça servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Mais il faut en parler, parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans une très mauvaise mentalité. Je ne sais pas, ici, on parle rarement de l'argent. Mais ce que le monde pense, ça ne doit pas nous préoccuper. Vous savez, les gens qui nous voient rentrer tous les dimanches, ils doivent se dire, ils sont fous, qu'est-ce qu'ils vont perdre leur temps? Franchement, les gens doivent penser qu'on est fous. Hein, de venir tous les dimanches, 2 heures, et il y a des gens qui sont encore plus fous, puisqu'ils viennent le mardi, il y a des gens qui sont fous, aux yeux du monde. Ce que le monde pense, ça ne doit pas nous préoccuper. Ce que les chrétiens pensent, ça doit quand même nous faire réfléchir. Parce qu'il nous est dit qu'ils furent indignés. Et dire à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et le donner aux pauvres. Bon, hélas, beaucoup de chrétiens en sont là. Et ça, c'est quand même une interrogation. Moi, je me réjouis de l'Assemblée Générale, parce que l'Assemblée marche. Mais moi, je pense pas à l'Assemblée. Parce que quand on va passer devant Dieu, ce n'est pas toute l'Assemblée qui va passer devant Dieu. Ça m'étonnerait que ce soit tous un âne qui passe devant Dieu. C'est chacun que nous allons passer devant le Seigneur. Alors, je m'adresse à chacun de vous, parce que quand même c'est mon devoir de vous aider. Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de ces disciples qui pourtant sont devenus des hommes de Dieu excellents? Est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de Judas? Parce qu'il y en a. Il y en a. Moi j'ai entendu quelqu'un, moi m'a dit, je ne la donne pas. Je préfère la donner pour les pauvres ou pour quelqu'un qui est dans le besoin. Écoutez, que chacun fasse comme il a résolu dans son cœur. Mais je crois que ça explique quelle est la mentalité de certains. Croyez-moi. Alors, est-ce que vous gâchez votre vie quand vous faites quelque chose pour le Seigneur? Est-ce que vous avez l'impression de gâcher votre vie? Ben non, j'espère que non. Bon, pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que cette histoire accompagne l'Évangile? Vous avez vu comment il l'a précisé? Parce qu'il y a un secret. Il y a un véritable secret, c'est que la valeur du service se trouve dans le fait que nous nous donnions à lui. Il n'est pas question de savoir si les pauvres vont être secourus. Je sais que les gens qui sont à fond dans le social, ils ne vont pas apprécier ce que je vais dire. Mais c'est pour vous aider. Vous ne devez pas commencer à dire, ah mais oui, il faut faire ça, il faut faire ci. C'est bien, tant mieux que le Seigneur nous conduise comme il l'a fait, comme il le fait actuellement. Peut-être que demain à la pastorale, je ne sais pas si j'irai, mais peut-être à la pastorale, on m'a dit, tiens, il y a une église, il manque de 2 000 euros pour payer un salaire. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est bien qu'on le fasse? Ben oui, on peut. Vous voyez ce que je veux dire? On va en parler, moi j'en parle après au conseil, ils m'ont dit, ils valident. Il y a des choses, il faut les faire. Mais le problème n'est pas dans les projets. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Le vrai problème de chacun d'entre nous est la façon dont nous nous donnons au Seigneur. Est-ce que je me suis vraiment donné à Jésus-Christ? Est-ce que ma vie, je l'ai répandue devant lui? Parce qu'il y a des gens, s'il y a des gens qui font rien dans l'église, c'est pas leur dire, il faut faire quelque chose. Il faut les amener à apprendre à répandre leur vie devant Dieu. Parce que si je dis à quelqu'un, tiens, ben, voilà, bon, ben, toi, occupe-toi des ados. Tu aimes les ados? Ouais. Tu fais, allez, mais le gars, il va le faire, ça va créer un problème. En parlant de problème, il y a un autre problème dans l'Église que j'ai fait. Parce que il y a ce qui est bien, il faut être honnête. J'ai fait une erreur. Et je vous demande pardon pour ça, parce que c'est quand même une vraie erreur. Vous allez me dire, c'est pas grave. Moi, je trouve que c'est grave.
Bon, nous accueillons les gens qui viennent des autres églises. Est-ce qu'il faut accueillir les gens qui viennent des autres églises?
Bien sûr, il faut accueillir tout le monde. Une église se doit d'accueillir tout le monde.
Mais moi, pas souvent, je suis naïf.
Je suis naïf. Parce que moi, si je devais partir d'une église, je pars de Saint-Ange, je suis membre, je me dispute avec M. Olé. Voilà, je pars de Saint-Ange. Comment?
C'est jamais arrivé. Mais ça va arriver. Ça va arriver. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé.
Mais imaginons, je me dispute avec M. Olé. Voilà. Je m'en vais après ailleurs, mais je vais lui demander pardon. Je pourrais pas aller prendre la Sainte-Cène dans une autre église sans avoir demandé pardon à M. Olé. Franchement, c'est quelque chose que je ferai, c'est certain.
Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui sont partis d'une église. Je ne parle pas de ceux qui ont déménagé à Saint-Agne. Mais c'est quand même des choses qu'il faut régler dans l'église. Il y a des gens qui sont partis, qui sont venus, et qui étaient en conflit avec d'autres églises. Ils n'ont pas demandé pardon aux frères, aux pasteurs, avec qui ils s'étaient attrapés. Est-ce que ça peut arriver?
Mais bien sûr, ne jouons pas les anges.
Et ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, ayant de l'amertume dans leur cœur, sont venus et ont pas amené la bénédiction. C'est pour ça que un de mes devoirs, c'est quand quelqu'un vient, bien sûr qu'on est heureux de l'accueillir, ça s'est passé dernièrement pour plusieurs personnes, mais je crois que nous nous devons de demander à ces personnes s'il y a un problème, de le régler. Tu t'es fâché avec tel frère, va le voir. Le choix d'une église, ça appartient à chacun, je veux dire, quand même. Mais je crois que lorsque quelqu'un vient d'une autre église, ça s'adresse pour les pasteurs, les anciens, il faut qu'on ait cette honnêteté de vérifier que la personne, elle est en paix. Parce que si elle n'est pas en paix, elle va s'occuper, par exemple, d'un groupe d'enfants, elle va mettre la pagaille dans ce groupe parce qu'elle n'est pas en paix. Vous comprenez? Et ça, c'est une erreur que j'ai faite. Je l'ai fait. Je vous demande pardon. Je pense que dans l'Assemblée, il faut de l'ordre, de la bienséance. Voyez, c'est ça l'Assemblée Générale. C'est de travailler de telle sorte que chacun fasse exactement ce que Dieu lui demande. Afin que je puisse dire, tiens, le Seigneur est-il satisfait de ce que je fais? Car c'est une question que je peux me poser. Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser chacun? Est-ce que le Seigneur est satisfait de ce que je fais? On parle de Michael. Michael peut se poser la question, voilà, est-ce que Dieu est satisfait de la façon, comment je joue, pourquoi je joue? Mais peut-être que le Seigneur vous appelle, Michael, à faire autre chose. Et c'est valable pour chacun de vous. Et nous devons tous faire cette chose. L'Assemblée Générale n'aurait aucun sens, on dit, voilà, il y avait tant, on a plus, ah, c'est bien, on a plus d'argent que l'an dernier, c'est mieux. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Rappelez-vous l'église de Laodicée, dans quel pétrin elle s'est mise. Et je pense que c'est un très mauvais calcul lorsqu'on est dans un système comme le monde. On a eu tant l'an dernier, il faut tant cette année de plus. Moi, je pense que ce n'est pas bon du tout. On l'a fait. On l'a eu fait. Je l'ai demandé. On l'a fait. On a montré les trucs. Un jour, en préparant cette prédication, je me suis dit, mais que t'es bête, vraiment, que t'es bête. C'est l'esprit du monde, ça. C'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, on n'est pas dans un truc de succès, on est dans l'honnêteté et dans la vérité. On doit être dans ce bon état d'esprit. Le premier désir du Seigneur, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes. Vous comprenez? C'est que nous nous retrouvions à ses pieds. Est-ce que ce n'est pas ça que Jésus veut nous enseigner? Cette image de Marie qui a économisé pendant longtemps, elle a répandu ce vase de parfum, ça représente pour nous notre vie. Est-ce que notre vie, elle est au Seigneur? Je vous pose la question, est-ce que vraiment votre vie, elle est au Seigneur ou elle est à vous, votre Seigneur? Ou est-ce que c'est du gaspillage, tout ce que vous faites pour le Seigneur? Ah non, moi, mais venir faire ci, venir faire ça, oui. Si vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes mal engagé avec le Seigneur. Tout ce que vous faites pour Dieu, ça doit être une bénédiction, tout. Tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est important. C'est ce que le Seigneur attend. Vous avez vu ces trois sœurs, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, et Salomé, elles ont voulu faire quelque chose pour le Seigneur, mais c'était trop tard. Tant mieux, Jésus était ressuscité, c'était bien, croyez-moi que c'était bien. Mais elles n'ont pas pu le faire, tandis qu'elle l'a fait d'avance. Il y a des choses, on les fera trop tard. Il y a des gens, ah moi j'ai de l'argent, ma fortune, quand je serai mort, je la donnerai au Seigneur. Qu'est-ce que ça coûte? Moi, j'ai plein de livres, j'ai des milliers de livres. J'ai des bibles, des vieilles bibles en pagaille. Vous vous rendez compte si je disais, moi, mes vieilles bibles, quand je serai mort, je les donnerai. Qu'est-ce que ça va me coûter? Rien. Et là, nous avons un enseignement, elle l'a fait d'avance. Parce que nous, on n'est pas concernés par la résurrection. Nous, on est concernés par l'enlèvement de l'Église. Donc, avant l'enlèvement de l'Église, il ne faudrait pas qu'on fasse des choses après. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver, vous le savez, dans les pleurs et les grincements de dents, parce qu'ils se rendront compte qu'ils ont été paresseux, et ils vont pleurer, ils vont vouloir faire des choses peut-être après. Est-ce que ça servira? Ça servira strictement à rien. Et c'est ce que ces trois femmes nous enseignent. Il y a des choses, même si on est, ça part d'un bon esprit, ça servira à rien. Parce que nous, nous sommes concernés par l'enlèvement de l'Église, par la gloire de Dieu, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Comment je me donne à Dieu? Parce que c'est sûr que donner, par exemple, moi donner 8 heures de mon temps pour préparer une prédication, je sais de quoi je parle. Bon, est-ce que c'est dur? Ou est-ce que c'est plus dur de donner toute sa vie? C'est quoi le plus dur? Et voilà. Et c'est ça que le Seigneur attend. C'est pour ça que Jésus a voulu que cette histoire accompagne toujours l'Évangile. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Et nous devrions chacun nous dire, mais est-ce que ma vie, elle est répandue aux pieds du Seigneur? Est-ce que Jésus a de la valeur à mes yeux? Vous avez remarqué des fois, vous entendez aux infos, des ventes aux enchères, tiens, un tableau de Monet. Moi, je trouve que il a fait de belles peintures. Bon, par contre, j'ai rarement pu acheter un de ces tableaux. 3, 4, 5 millions d'euros, un tableau de Monet. D'accord? Non, mais c'est ça. Est-ce que vous oseriez dire dans une galerie d'art, où il n'y a que des spécialistes de Monet, ça, c'est du gaspillage? Non, mais vous êtes complètement malade de payer 5 millions d'euros un tableau de Monet, mais vous êtes fou. Est-ce que vous oseriez le dire, ça, devant des spécialistes? Vous n'oseriez pas, franchement, vous n'oseriez pas le dire. Même si vous le pensez, moi je pense que je le penserais un peu quand même. Mais on n'oserait pas le dire. Mais dans le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, est-ce que Jésus est votre bien le plus précieux? À combien estimez-vous la valeur de Jésus? Tiens donc. Parce qu'il y a des choses qui vont dans l'Église, il y a des choses qui ne vont pas, des choses qu'il faut améliorer, etc. Quand je vois certains chrétiens, comment ils voient le service de Dieu dans l'Église? Non, mais c'est grave. Ça vous montre qu'ils ont ou, c'est grave, ce que je vais dire, ou la mentalité de Judas, ou la mentalité des disciples qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas, si des hommes sont capables de payer un tableau, un vase, des millions d'euros, écoutez quand même, nous les chrétiens, quel prix a le Seigneur Jésus à vos yeux? Quel prix il a? 50 euros? Quel prix il a? Quelle valeur a le Seigneur Jésus à vos yeux? Ce matin, aujourd'hui, maintenant, quelle valeur a-t-il? S'il a beaucoup de valeur, tout ce que nous ferons pour lui, ce ne sera pas du gaspillage. Vous comprenez? Il y a des gens, ah bon, vous avez donné ça pour Dieu? Mais vous êtes fous! Mais on l'a dit à chaque... Tous les pasteurs l'ont entendu. Moi, quand je suis rentré dans le ministère de ma famille, mais comment? Mais c'est du gaspillage. Il aurait pu réussir dans ceci ou dans cela, mais il va gâcher sa vie. Est-ce que vous pensez qu'en donnant ma vie à Dieu, j'ai gaspillé ma vie? Moi, je crois que non. Je crois que tout ce qu'on fait pour le Seigneur doit être précieux. Seigneur, on donne. Je ne peux pas donner beaucoup, mais je te donne ma vie. Et même si je donne beaucoup, tant mieux. Si je peux donner davantage, tant mieux. Mais Jésus attend d'abord notre vie. Et ne vous disculpez pas parce que vous donnez davantage. Moi, je donne ma dîme, je donne même des offrandes. Alors, tu vois, Seigneur, peut-être que c'est ce que Dieu vous demande. Mais peut-être que Dieu veut votre vie et pas votre argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, bien sûr qu'il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais mes frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est notre vie. Il faut que nous puissions dire, oui, je vais le faire, parce qu'un jour, je ne pourrai pas le faire. Un jour, je ne pourrai plus le faire. Un jour, peut-être que même notre santé, ce matin, Jérémie priait pour tous les frères qui ne peuvent plus venir. Il y a plein de frères et sœurs, on en a une trentaine à peu près, qui ne peuvent pas venir. Je pense à Mme Georgie, je pense à Mme Salerno, à Mme Gomis, etc. Des frères qui ont été membres de l'Église, qui sont toujours membres de l'Église, qui ont été là pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui se sont investis, ils ne peuvent pas venir. Un jour, nous nous retrouverons comme Marie et Salomé, on ne pourra pas répandre ce qu'on avait prévu, parce que ça sera trop tard. Et nous devons franchement dire, mais Seigneur, mais c'est vrai, dans l'Église, je dois me tenir à tes pieds, je dois répandre mon cœur, il faut qu'il se passe quelque chose. Est-ce que j'aime me tenir à tes pieds? Et c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous aimez répandre votre vie aux pieds du Seigneur? Ou est-ce que vous dites, voilà, il faut s'occuper des pauvres. Voilà, il y a des églises, ils sont à fond dans tel truc. Il y a des églises, oh, moi je ne veux pas critiquer. Mais il y a des églises, on est tombé à fond, même dans les conseils d'administration, dans des projets sociaux, on n'a plus le droit de distribuer les évangiles pour avoir les aides de la mairie. Vous savez, ça marche comme ça. Enfin, je ne sais pas s'il me faut prendre du temps pour l'expliquer. Mais enfin, on en est là, voilà, on ne peut plus donner des évangiles, la mairie nous aide, voilà, on aide les pauvres, on fait une friperie. Mais ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Dieu peut me demander, comme il a demandé à M. Galifot de s'occuper des prostituées. Mais c'est très bien. Mais mes frères et sœurs, ce que le Seigneur veut, c'est que nous répandions notre vie dans sa présence. Est-ce que vous savez que Dieu vous attend dans sa présence? Il veut que vous déposiez votre vie à ses pieds. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous le faites? Il y en a qui ne le font pas, c'est sûr. Ceux qui ne font rien dans l'Église, vous ne le faites pas. Ce n'est pas possible autrement. Quelqu'un qui répand sa vie aux pieds du Seigneur, il va faire quelque chose pour Dieu. Vous avez vu, il est dit que l'odeur a rempli toute la maison. C'était quelques jours avant la mort de Jésus, c'était donc au mois d'avril. En avril, c'est en avance, en Israël, ça devait sentir bon partout, les figuiers, les oliviers, le mouton dehors, le mouton rôti dedans. Ils avaient fait un repas, les gâteaux, ça devait être extraordinaire. Parce que nous, on ne pense pas aux odeurs quand on lit la Bible. Mais ça devait être extraordinaire, cette affaire. Et comme il fait bon à Jérusalem au mois d'avril. Et tout d'un coup, l'odeur du pain fin se répand dans toute la maison. L'odeur du parfum a couvert toute la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'un chrétien répand sa vie au pied du Seigneur, sa vie est imprégnée de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est à cela qu'on doit reconnaître un véritable chrétien, qui, par son témoignage vécu, ce qu'il dit, ce qu'il vit, amène une odeur particulière de la grâce, de la miséricorde. Oui ou non? Mes frères et sœurs, dans quelques instants, le temps passe, on doit prendre la Sainte Cène, on doit écouter l'Assemblée Générale. Mais moi, je suis d'abord, avant d'être, parce que je suis le président de l'Église, mais ça ne m'intéresse pas, je suis votre pasteur. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai que les présidents, les pasteurs sont présidents de droit, tout ça, bon, moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais été un conseil d'administration comme président. Les frères peuvent le dire, jamais, jamais j'ai dit c'est moi qui décide, jamais, 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 jamais. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Si on me disait, monsieur Gould, venez pour me, j'ai dit, c'est pas grave. Mais par contre, je suis votre pasteur. Et je vous le dis, mes frères et sœurs, je nous le dis, tenons-nous dans sa présence, répandons notre vie. Répandons notre cœur et un parfum va jaillir parce que notre vie sera collée à celle du Seigneur. Elle a essuyé les cheveux, les pieds avec ses cheveux. Les Égyptiens étaient furieux. Mais est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Après, l'argent suivra parce que je vais vous dire, quelqu'un qui répand sa vie devant Dieu, il va faire tout ce que Dieu lui demande. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous voyez quelqu'un comme Marie qui ne va pas faire la volonté de Dieu après? C'est impossible. Alors, aimez vous retrouver seul devant Dieu. L'Assemblée Générale, c'est bien. Les offrandes, c'est bien. Les projets, c'est bien. Mais je peux vous dire que Dieu ne veut pas que vous vous intéressiez aux pauvres. Dieu veut d'abord aux pauvres. Dieu veut que vous vous intéressiez d'abord à lui. On ferme les yeux. Monsieur de Dieu, alors, Jérémy, tu peux choisir des frères, s'il te plaît. Seigneur Jésus, tu as voulu que cette histoire soit toujours jumelée avec la prédication, toujours. Et Seigneur, tu vois ce que tu veux dire ce matin à l'Assemblée, ce que tu veux me dire, nous dire, afin que dans cette ville se répande ce parfum.
Seigneur, merci pour avoir laissé cette histoire dans ta parole. Et avant de prendre le pain et le vin, je veux vraiment te prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont comme les disciples, qui sont indignés par le gaspillage des vies. Tu vois tous les chrétiens qui en sont là, Seigneur. Je te prie de les pardonner. Je te prie de les aider. Je te prie, Seigneur, de les convaincre qu'il n'y a rien de plus beau que de se retrouver dans ta présence et que de briser sa vie à tes pieds. Vraiment, Seigneur, aide ces chrétiens. Tu vois ceux qui sont là, ceux qui sont à côté, ceux qui seront là cet après-midi. Seigneur, s'il te plaît, que chacun d'entre nous puissions avoir cette immense joie, tant qu'on peut le faire, d'avance, de briser notre vie à tes pieds et d'être utile. Nous te remercions également pour l'institution de la Sainte Cène. Fallait-il que tu nous aimes pour nous amener, chaque fois que nous nous rassemblerons le dimanche, à pouvoir prendre ce pain et ce vin. Seigneur Jésus, merci de nous rappeler combien ton corps a été brisé, combien ton sang a été versé. Seigneur, merci, merci pour la scène et merci surtout pour ton corps qui s'est laissé clouer à Golgotha. Toi, le grand Dieu de l'univers, tu as accepté cela. C'est vrai que lorsque nous pardonnons, nous avons besoin de rien faire. Mais toi, pour nous pardonner, toi, tu as versé ton sang. Alors merci pour ton pardon, Seigneur. Merci vraiment. Que ton nom soit béni. Je demande à ceux qui sont baptisés par immersion, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui sont engagés dans les eaux du baptême, à vous lever à votre place, mais avec une grande joie, en réalisant que votre vie, elle n'a pas été gaspillée, mais vraiment pas gaspillée. Vous ne gaspillez pas votre vie en venant là ce matin. Vous avez fait la chose la plus importante qu'un homme puisse faire, lui donner son cœur. Voilà, simplement, courtement, laissons le Saint-Esprit conduire ces quelques minutes, mais que tout soit conduit par le Saint-Esprit.